Donc, alors on est là. Ou Bachokhma. On est dans le passage qui commence ou Bachokhma. Donc nous sommes en fait dans. Okay. On est dans la sémantique kabbalistique qui parle de toutes les sphirotes et nous essayons en fait de traverser les unes les autres pour essayer de comprendre vers quoi et comment Akadosh Baruch Hu, en fait du monde de l'infini, arrive au monde fini. Qu'est-ce que ça veut dire? La chokhma, c'est le début de tout, puisque Hashem bechokhma yassad eretz, nous avons inversé. Hashem, avec la chokhma, a fondé la création. Konen shamaim bitvuna. Il a fabriqué les cieux par la tvuna, qui est en réalité une notion de bina. Donc ça veut dire qu'il y a ici, en fait, le ciel et la terre, donc l'ensemble, comme si c'était une parenthèse de tout, tout est englobé dans la sagesse divine et dans le discernement divin. Si tu as ces deux qualités, qu'est-ce que tu as? Celle qui est médiane. Chokhma, Bina, Da'at. C'est pour ça que nous demandons dans la Amida, Ata, Chonen, Le Adam, Da'at, Boker Tov. Refoua Shlema.
C'est le jour où on s'est vu au théâtre.
Eh bien voilà, c'était un coup de théâtre pour toi. Ouais. Dan, Yalam, Che, Che, je vois que tu es. Il n'arrête pas, lui, c'est un homme d'affaires. Et... vous avez les textes? Non, vous ne les avez pas. Tenez. Ok. Donc, nous sommes dans la Chokhma et la Bina. C'est le Réchit et Acharit. Réchit et Acharit, c'est-à-dire le début et la fin. Donc, la parenthèse globale de toute la création. Si vous avez ces deux degrés, et la Chokhma et la Bina, en fait, vous avez tout. Et c'est pourquoi je vous répète à chaque fois, Bessiata Dishmaya, que la, à mon sens, la kavana la plus importante dans la Amida, c'est Ata Chonen le Adam Da'at, ou Melamed le Enosh Bina, ve Chonen ou Meitra Chokhma Bina ve Da'at, Baruch Ata Hashem Chonen Ada'at. Ça englobe en réalité l'essence même de ta vie. Si tu as la sagesse, bien entendu, une sagesse divine, qui est une sagesse créatrice, une sagesse qui a des mains, une sagesse qui agit, pas une sagesse d'intelligence stérile. C'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est une asiya. Et la bina, qui sait faire la différenciation entre les degrés, qui sait faire des associations. Tiens, j'ai appris ça là-bas, je le colle ici. Ça, c'est la bina. Tu as le da'at. Et le da'at, c'est quoi? C'est la connexion entre les cieux et tout le bas, toute la réalisation de ces cieux. Donc, même dans ta vie, tu vas pouvoir réaliser de tes mains, de tes pieds, dans ta vie, tes pensées. Donc, les hommes qui sont paralysés dans leurs actes, alors que dans leurs pensées, ils ont de grandes pensées, ce sont des hommes qui manquent cet élément charnière qui s'appelle da'at. Et c'est ça qu'on doit acquérir grâce à Chokhma et Bina. Donc ici, le Rav nous dit, Chokhma, c'est le début de tout, et Bina, c'est la fin de tout. Je te conseille d'avoir les deux. Ve'ainu reshit ve'acharit shel gilui klape Adam atzmo. Donc c'est le début et la fin du dévoilement par rapport à l'homme lui-même. Ma she'en ken la'acherim en kan gilui klal. Alors que pour les autres, il n'y a pas de dévoilement, aucunement. Vea keter shoresh la chokhma ve la bina, et le keter, c'est la racine de la chokhma et de la bina. Alors qu'on a commencé à parler que de la chokhma et que de la bina, maintenant il nous ramène plus haut, à la source. Qu'est-ce que c'est que ce shoresh? Bah, dans ce shoresh, en lui, Ha'elem ha'gamur, c'est, comment dire ha'elem en français? Hein? Non, pas ha'elem. Ha'elem, le voile le plus grand. D'accord? Milashon olam. Afilu la'adam atzmo, même pour l'homme lui-même, qui n'a aucun contact avec ce qu'on appelle le keter. En hébreu, le keter veut dire entouré. Par exemple, je suis à l'armée, on nous demande le keter est Gaza. Il va falloir qu'on contourne Gaza et qu'on place des soldats de tous les côtés pour entrer. Ça s'appelle le keter, donc le keter. Et c'est un degré qui dépasse en fait l'entendement parce qu'il au-dessus de tout, il englobe le tout, il contourne le tout, il est au-delà de tout. Insaisissable. Comme la couronne d'ailleurs, Keter, qui est au-dessus du roi et non pas dans sa tête. D'accord ? Elle est posée sur sa tête. Donc elle est au-dessus, c'est autre chose. Vare beprinat nistarot gufa, brina achat nisteret klape shtaim miglot. Donc, si je dois maintenant parler dévoilé ou voilé, je dirais que Keter, c'est le voilé, et Chokhma et Bina, c'est le début du dévoilement. Lachen amru zal ain reshit el Chokhma. En reshit el Chokhma. Le début de toute chose dans ce monde, dans notre monde créé, c'est la Chokhma. C'est-à-dire le premier yesh existant, c'est la Chokhma. Avant la Chokhma, il y a en. Donc en, c'est le nom du Keter. Quand je dis yesh mi ain, yesh mi en, c'est que le premier existant vient de ce néant qui s'appelle le en. Donc yesh mi ain, keter qui sort de chokhma, chokhma qui sort de keter.
Et keter et da'at, c'est pareil?
Non, keter, tu as raison, c'est au-dessus, donc il a aucun lien. Alors que da'at, ça va être comme keter, mais cette fois-ci en faisant le lien avec le bas. C'est une très bonne remarque. Et d'ailleurs, dans les sphirotes, si je mets Keter, je ne mets pas Da'at. Et si je mets Da'at, je ne mets pas Keter. Parce que c'est la même phase centrale, alors que Keter ne s'occupe que des mondes supérieurs. Et Da'at, lui, il se préoccupe aussi de faire passer. C'est pour ça qu'on ne demande pas Keter, on demande Da'at. Parce que mon but, c'est d'apprendre pour enseigner. Ce n'est pas de garder les choses pour moi. Il n'y a aucun intérêt. Parce que finalement, ce que je vais laisser dans mon monde, après mon départ, jusqu'à 120 ans, c'est ce que j'aurai laissé comme enseignement. Ce que j'aurai laissé à ceux qui ont reçu de moi. Tout le reste n'intéresse personne. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Tu ne te souviens jamais d'un grand-père ou d'une grand-mère qui n'a rien laissé. Oh, tu te rappelles son nom et encore. Mais quelqu'un qui a laissé quelque chose... C'est autre chose.
Vous avez vu que les scientifiques, ils utilisent le mot « ain », vous voyez, le mot « ain », pour eux, ils appellent ça l'inconnaissable.
C'est ça.
Et c'est en gros, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, c'est il n'y a pas d'énergie.
C'est, en fait, c'est l'instant d'avant le Big Bang.
D'accord. Ils l'appellent l'inconnaissable.
D'accord. Eh bien, voilà, ils, haine, tu vois
ils y a, c'est récent. Hein.
C'est incroyable. Eh bien, voilà. Ils utilisent les mêmes terminologies. À croire qu'on est en train de véritablement de fermer le cercle. Et d'ailleurs, c'est marqué comme ça, hein, qu'à la fin, la science va reconnaître en fait ce que la Torah dit. Parce que c'est la même chose, en fait. On parle le même langage. Il faut bien comprendre que la Torah n'est pas contre la science. C'est la même chose, puisque la science, c'est le secret de ce monde. Enseigner à un terroriste la chimie dans une université israélienne, c'est lui enseigner le secret de la vie. Le problème, c'est que tu lui enseignes à tuer. Parce qu'il va utiliser cette force pour massacrer. Donc, il faut faire très attention à qui tu ouvres l'étude. Et ce n'est pas le cas de l'université. C'est universel.
Tu
ne
peux pas faire attention à qui tu ouvres l'étude.
Tu es obligé. Tu es obligé. Même dans la Torah. Même dans la Torah. Si je connais quelqu'un qui n'a pas de bonnes vertus...
La personne peut évoluer. Elle peut justement par cette...
Pas dans ce domaine-là. Parce que là, tu lui donnes que de la connaissance. Tu ne lui donnes pas un moussard de vie. Il n'a pas le moussar de vie. Donc, il était...
Tu veux dire qu'avec la connaissance, il ne peut pas évoluer
pas du... Il va évoluer dans le sens du mal. Ça veut dire qu'il va comme les nazis. Ils vont utiliser toute la science pour faire des expériences. Mais dans la mort. On n'a jamais vu un terroriste, entre guillemets, qui a fait tchouva. C'est rarissime, si ça existe, Bichla. Il rentre en prison pour 4 ans, il ressort encore plus assassin que ce qu'il était. Comme celui qui a tué avant-hier.
La Kabbalah, c'est une science, en fait.
Exactement, c'est une science.
Exactement. C'est tous les faux prophètes qui ont
utilisé la Kabbalah. Exactement, c'est de la science. D'ailleurs, la prophétie, c'est une connaissance de tous les éléments de ce monde. Comment va agir telle étoile par rapport à tel truc en rencontrant tel... Alors, c'est tout.
Pourquoi vous nous laissez enregistrer alors
Ma
Pourquoi vous nous laissez enregistrer Pour diffuser ça sur YouTube et n'importe quoi.
Il y a fait. Aujourd'hui, l'Internet, c'est un danger à cause de ça. C'est l'un des dangers. Mais d'un autre côté, on gagne à ce que le savoir de la Torah, et là, on enseigne de la Torah, ce n'est pas de la science. Donc, mitoch ha-ma'or shebetocha, dit le Zohar, grâce à la lumière qu'elle contient, pas comme la science que tu enseignes froidement, cette lumière qu'il y a dans la Torah, elle change l'étudiant. Et le Rav Kook le dit clairement, la Torah de la Kabbalah change l'esprit et le corps et le devenir de la personne en question. Et ça va être un meilleur musicien.
Je ne suis pas la réponse à sa question.
Ben, la réponse, c'est pourquoi j'enseigne. Parce que j'enseigne la Torah, j'enseigne pas la science. Et donc, dans la Torah, il y a la lumière.
C'est la science. J'enseigne la
Kabbalah. Non, je dis que dans la Kabbalah, il y a de la science, mais il y a un moussar Elohi qu'il n'y a pas dans la science à proprement dit. D'accord ? Qui manque dans la science. Un scientifique, Talmid Raham, c'est autre chose. Là, tu as et la science et l'éthique. D'accord ? Là, on enseigne en fait une Torah qui est pleine d'éthique parce qu'elle est divine. La science aussi, elle est divine. Mais elle est dénuée d'éthique. Donc, celui qui va enseigner la science, c'est un professeur. Il n'en a rien à faire de qui est en face de lui. Okay ? Il rentre, il donne son cours et il s'en va.
Pour toi, il devrait sélectionner.
Exactement. Il doit y avoir une sélection. Comme dans la Torah aussi, malgré le fait que la lumière de la Torah est très importante, moi, je fais une sélection, par exemple, au Machon Meir. Je sais qu'au Machon Meir, on a refusé des élèves. Un jour, un élève est rentré chez le Rav Cherki, Yizacher Letov, et il lui a dit, je viens étudier au Machon. Il lui dit, pourquoi tu veux étudier? Il dit, parce que je veux augmenter en Torah. Il dit, mais tu as fait l'armée? Il dit, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Il dit, tu ne fais rien du tout au niveau de ton état, qu'est-ce que tu fais au niveau de la terre? Il dit, moi, je m'en fiche complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Torah. Il a dit, ben, tu sors de là. On ne peut pas t'enseigner la Torah. Parce que si tu t'en fiches complètement et que tu n'es pas prêt à donner pour l'armée d'Israël, pour l'état d'Israël, pour ce que tu fais ici, tu n'as pas d'éthique. Donc, pour toi, l'enseignement de la Torah, tu vas être un pourri sans kippa, tu seras pourri avec kippa. C'est tout. Et Talit Katan. Ça ne change rien du tout. Donc, il y a quand même une sélection.
Tu as reçu le test par la poste pour venir ici
Si. Ve'alda, Bereshit, Bet Reshit. Et donc, quand on dit Bereshit, le Zohar nous dit directement Bet Reshit, deux commencements. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans la vie, il y a toujours deux commencements. Begin de ihi tinyana lechushbana. Parce qu'en réalité, c'est déjà deux par rapport au compte. Tu es déjà dans un monde de deux. Tu n'auras jamais une Gemara, page 1. Tu es dans le monde du deux. Chaque Gemara va commencer par page bet. Il n'y a pas de page Aleph dans la Gemara. Parce que le Aleph ne t'appartient pas. Donc tu es déjà, à partir du moment où tu dis Bereshit, tu es obligé d'introduire la notion de pluralité. Donc la première lettre de la Torah est obligée d'être un bet. Par contre, dans ce bet, qui est la pluralité, le minimum du pluriel, tu vas devoir reconnaître le Aleph. Et c'est pour ça, au moment du don de la Torah, la première lettre des 10 paroles, c'est Aleph, Anochi. D'accord ? Mais dans la création du monde, c'est le Bet.
C'est le Aleph, c'est la couverture du livre, en fait. C'est comment on appelle le livre. Hein ?
Non.
Quand on pagine un livre.
Non. Le Aleph, c'est en fait l'infini. Toi, tu n'as accès qu'au Bet dans ce monde. Le contenu du Bet doit être le Aleph. D'accord ? Donc, en fait, la Torah que tu vas recevoir, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. Toute Torah que tu auras reçue dans ta vie, elle est obligée de passer par un 2. C'est-à-dire, toutes les connaissances de ta vie, ce n'est pas des choses que tu as lues seules. Ceci, tu vas les oublier. Ça sera que lorsqu'il y a eu face à face avec quelqu'un. Très important. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent, donne-moi un chidouche de Torah que tu as étudié seul, à voix basse en plus. Quand tu as lu, tu es incapable. Tu ne te souviendras jamais. Tu peux te souvenir le jour même parce que tu viens de le lire, c'est fini, c'est éteint. Au bout d'un mois, tu ne te souviens plus. Les seuls chidouchim de ta vie, c'est ce que tu as formulé à voix haute ou bien encore plus avec quelqu'un en face de toi. Et ça ne s'oubliera jamais de ta vie. De là, nous disent les Chachamim, ou bien tu es à deux, ou bien tu meurs. Chavruta o mituta. Donc, étudier la Torah seul, ça n'existe pas.
Quand on écrit aussi, non ?
Quand quelqu'un quand on écrit, l'étude. Exactement. Là, tu formules la chose dans une existence. Donc, tu la sors de toi. Et même si tu es du dit seul, étudie à haute voix. Et c'est pour ça que tu vois des jeunes assis dans les yeshivot. Ah, à qui il parle ? Il parle tout seul. La même chose dans la Agada de Pessah. Même si tu es seul, tu dois dire le Sipour de Yetziat Mitzrayim à haute voix à toi-même. Tes oreilles doivent entendre ta bouche parler. Très important. Tu as un texte ? Tu as un texte, Michel ? Tiens. Ken. Avraham, Yitzhak et Yaakov n'étudiaient pas la Torah comme on l'étudie, ils vivaient la Torah. Donc, ils n'avaient pas de Torah, ils n'avaient rien reçu, mais naturellement, intuitivement, ils vivaient les véritables décisions comme si Dieu les avait données. Tu montrais à Avraham un morceau de viande par terre, il savait s'il était apte à la consommation ou pas. Juste par son instinct. On doit arriver à ce degré-là. Nous, aujourd'hui, s'il n'y a pas une Théouda, c'est ce qui va te dire que ce n'est pas cachère. S'il y a une Théouda, même si c'est du cochon, tu vas manger. Parce qu'il y a une Théouda.
Il y a deux tranches de pain avec une tomate, un morceau de fromage dessus.
Okay ? Tu ne comprends rien. Ouais. Ça veut dire qu'on est paumé complètement. Alors que dans la véritable structure du judaïsme, tu devrais sentir le goût de viande et savoir si c'est apte ou pas. D'ailleurs, le mot kasher veut dire apte. Hein. Ça ne veut rien dire kasher. Tu peux être kashir la tzava, qui est kasher pour l'armée. Ça veut dire que tu es en bonne forme. C'est ça que le mot kasher. Hein.
Okay. Si on n'étudie pas, pas avec quelqu'un,
okay. L'étude n'existe pas.
Si on est seul, ça
a... Exactement.
Il y a des gens au Shabbat qui
prennent. Alors tu lis à haute voix. Tu lis à haute voix.
Je rentre à la maison, je vois un passage.
C'est la différence entre l'étude et le ayoun. Qu'est-ce que c'est ayoun ? Ça vient du mot aïn. Donc anime aïen. Ça, ce n'est pas de l'étude.
Donc il faut
faut dire.
Il faut dire
à haute voix. Exactement. Tu racontes à ta femme. Tu t'assois à côté, tu lui dis, regarde ce que je viens de lire. Tac, 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 tac. C'est la meilleure chabruta d'ailleurs. Eh bien, tu lui réponds en arabe, débarrasse la table. Okay. D'accord ? Donc, en fait, c'est ça. Et d'ailleurs, vous rigolez, mais la meilleure chabruta, c'est la femme. Hein. Que vous sachiez, pour un homme. Je sais pourquoi ?
Jamais d'accord.
Exactement.
Pourquoi ?
parce qu'elle n'est jamais d'accord, elle va toujours se confronter et te dire pourquoi tu me dis raconte ça, je vois pas ça comme ça du tout. Et hop, elle va t'apporter. C'est facile d'avoir une chavruta qui te dit toujours amen à tout. C'est comme Resh Lakish. Resh Lakish, sa chavruta est morte. On lui a donné quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'il disait un truc, l'autre il lui dit Chazak ou Barour. C'est exactement comme ça que je pense. Il dit, mais je n'ai pas besoin de toi, moi.
C'est pas forcément une contradiction, c'est un autre avis.
Mais c'est ça la contradiction.
D'accord.
C'est de la contradiction sort en fait la synthèse. Tu as une thèse, une anti-thèse, et donc il y a une synthèse. Si tu n'es pas capable de dire non, tu n'es pas capable d'accepter. Je vais plus loin. Si tu n'es pas capable de dire non à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas non plus lui dire oui. Vous avez entendu ce que je suis en train de vous dire là?
Ah, j'ai cru que c'était envers sa femme, parce qu'on a toujours oui à leur femme. Oui, oui.
Ça, c'est quand elle te met la soeur.
Ben, tu n'acceptes pas. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas ça. Si tu n'es pas capable de dire ça, c'est que tu n'as pas un vrai choix encore.
C'est pas la question.
Exactement, tu es encore un robot de sa lumière, donc tu as peur, pour X raisons, hein, mais tu n'es pas encore libre. Donc quand tu diras oui, ça ne sera pas un vrai oui. Moi, je préfère un enfant qui me dise « Papa, toute votre Torah, ça me gonfle. » Parce que quand il va revenir, ça sera véritablement un retour. Que quelqu'un qui est un perroquet, qui met la kippa, qui est assis tranquille à côté de son père pendant 40 ans et qui ne dit rien, qui n'a rien à faire en fait. Il est vide. Ce n'est pas ça. Donc, en réalité, il faut accepter la contradiction pour justement accepter. Comme en électricité, s'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de lumière. C'est la résistance qui fait en sorte qu'il y ait de la lumière. Moralité, le peuple d'Israël qui a été choisi, c'est la plus grande résistance qui soit. Et c'est pour ça qu'on s'est appelé Am Keshe Oref. Et plus tu es, j'allais dire le top niveau, c'est israélien. Okay. Top niveau, c'est israélien. Il n'y a pas plus nucrète qu'un israélien. Hier, j'ai donné un cours en hébreu à des israéliens, des vrais, nés ici, formatés ici. Il n'y a aucun rapport avec vous. Vous êtes gentils, mais graves à côté. Vous êtes des nounours, des bisounours. Okay. Vous sortez d'un pays d'assisté, comme il dit mon copain. Ceux-là, quel zdarras. Mais tu es obligé de donner des réponses, sinon ça ne marche pas, ça ne passe pas. Donc ça me atgeroti. Je suis obligé d'aller beaucoup plus loin dans mes recherches, dans ma façon de faire passer le message.
Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la défensive?
Non, parce que ils ne mangent pas n'importe quoi. Exactement, ils ont besoin de comprendre qu'est-ce que tu me racontes, pourquoi tu me dis ça, machin. Mon beau-frère est un ingénieur en aéronautique, une sommité. Ils ont fait venir un ingénieur mondialement connu d'Allemagne qui donne des conférences partout. Il est rentré dans son bureau, l'ingénieur. Il est sorti de là-bas, il avait mal à la tête, l'ingénieur allemand. Il a dit à mon beau-frère, j'ai jamais vu un truc comme ça, je comprends pourquoi vous êtes très intelligent. Tout ce qu'il disait, il lui disait, pourquoi tu es arrivé à ça? Comment tu es arrivé à ça? Moi, pas du tout. Moi, j'ai fait comme ça, c'est pas sorti comme ça. Les autres, il m'a dit, jamais. Ils se taisent, ils écoutent. Il m'a dit, je comprends pourquoi vous êtes comme ça aussi loin. Et ça, c'est le secret.
C'est le contraire de l'islam, en fait. L'islam, c'est la soumission.
D'accord.
Complètement.
Là-bas, c'est encore, il y a du primitif, c'est encore beaucoup plus grave que ça. Mais c'est une soumission, tout à fait. Tu voulais me poser une question?
Ouais, c'est-à-dire le fait de dire non à Hachem, même si on est dans un processus de vouloir arriver à lui dire oui tout le temps, c'est bien aussi.
Je ne suis pas en train de te dire de lui dire non pour jouer à un jeu.
Non.
Je dis que si tu es capable...
On est souvent entre deux eaux.
Si tu es capable de te confronter, entre guillemets, à sa grande lumière, à lui dire que je ne suis pas d'accord avec toi, quand tu diras « je suis d'accord avec toi », ce sera un vrai accord.
Et si tu le dis jamais?
Ça veut dire que tu as encore des notions. Tu as des notions de peur, une défensive. Okay. voilà, l'histoire du rabbin que tu m'as raconté, que tu ne veux pas dire son nom. Ah non, non, ça on ne dit pas, Chas v'Shalom, on ne pose pas de questions. Au Machon Meir, là où j'enseigne, il n'y a aucune question interdite. Tu peux tout demander.
Alors, quelle est la bonne réponse que devrait te donner Akadosh Baruch Hu que tu passes du non au oui?
Ben, ça doit te convaincre en réalité. Tu dois faire un travail sur toi, tu dois étudier et arriver à une conclusion avec lui.
Comme avec son père, en fait.
Exactement.
Dans une phase de rébellion.
Exactement. Exactement. J'ai donné l'exemple tout à l'heure.
C'est bon pour nous.
Du gosse qui est assis à côté de toi, qui a coupé les cheveux comme tu voulais, la coupe que tu voulais, tu lui mettais les chemises que tu voulais, trois fois sa taille, tu lui mettais les chaussures que tu voulais, et à un moment donné, il te dit « Oh, tu ne vas pas m'habiller comme un plouc toute ma vie. Laisse-moi acheter mes vêtements. » Ben c'est pareil. Alors, ou tu es outré et tu es mort parce que tu t'es dit, mais tous mes enfants, ils sont en train de me lâcher, là, ils sont en train de lever la tête. Pas du tout. Ça fait partie du processus.
Et aujourd'hui, ça arrive très tôt, les contradictions.
Dans les parce que l'évolution est beaucoup plus rapide. Ouais. C'est vrai? C'est pas un sport, hein, de contredire pour contredire. C'est vraiment quand tu as une question à poser, tu la poses vraiment et que tu n'as pas honte. Et les gens timides.
Mais il ne va pas te répondre comme ça.
Peu importe, il peut prendre le temps de répondre.
Donc, tant qu'il ne t'a pas répondu, tu dis non.
Okay. Tu peux avoir, en fait, une véritable recherche. C'est-à-dire prendre les choses au sérieux. Pas, il m'a dit, je ne sais pas, je ne comprends rien, mais c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça, la Torah. La Torah, tu dois étudier. Je crois que les gens, ils n'ont rien à foutre de rester 8 heures par jour, 10 heures par jour, à se confronter à des trucs qu'ils ne comprennent pas, ils sont en train de rejeter complètement les paroles de tel sage qui est censé recevoir de Dieu. Jusqu'au bout, ils arrivent à une conclusion tous les deux, ça je suis d'accord. Ok. C'est pas évident. Ça s'appelle Milchamta shel Torah, la guerre de la Torah. Et pour ça, il faut être virulent, comme un guerrier, hein. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire de cadeaux. Malheureusement, les gens dans la rue associent ça à de la haine. Ça n'est pas de la haine.
Non, de l'agressivité.
Mais c'est important. Par exemple, si je ne suis pas d'accord avec tel chita, je peux être agressif. Mais la personne en question, je l'aime. Mais je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Mais je dois dire ma façon de voir les choses, avec fermeté, sans me tromper. Donc, tout ça, c'est le secret. Donc, il y a un degré caché, toujours, et deux degrés dévoilés. Comme un immeuble. Un degré caché sous la terre, deux degrés dévoilés au-dessus de la terre. On est d'accord? Il y a un tiers, deux tiers, toujours pareil. Un immeuble, c'est pareil. Il y a un tiers sous la terre, fondation, deux tiers dévoilés. Eh bien, dans la vie, c'est pareil.
Sauf l'iceberg.
Hein? Ouais.
Il flotte l'iceberg.
C'est vrai? Il est pas, c'est pas une construction. La chen amrouzal, en, reshit et la chokma. Donc, le premier en, c'est la chokma. Le premier en, c'est le keter. Et c'est ça, la reshit. Et la chokma, en réalité, c'est le premier yesh. D'accord? Donc en réalité, on ne parle jamais du Keter, du N. Nous, on parle de ce qui est apparu à nous. Je vais dire avec d'autres mots, on ne parle jamais des autres métiers de Dieu. Il a des milliards de métiers, une infinité. Nous, on ne parle qu'un seul métier, créateur du monde. Tu es venu, tu m'as créé, tu m'as donné vie à moi, je m'occupe de ça. Moi, je ne sais pas ce que tu es. Je n'ai pas le droit de chercher ce que tu es. Je dois m'occuper de ce que tu as fait pour moi. Donc, je vais me préoccuper de ta volonté, ce qu'on appelle la asot retsono. Donc, on fait sa volonté, mais on ne cherche pas à savoir qui, alors que c'est une identité infinie. Donc, impossible à moi de savoir. Je peux poser des questions, mais je dois répondre de la manière où je réponds maintenant. Et quand un bébé vous pose une question, ma petite fille me pose une question, qui c'est Akadosh Baruch Hu? Je lui dis, Delet Marshavat Fisabek Lavruchlal. Elle me regarde comme ça. Elle comprend que je viens de lui dire un truc qui dépasse complètement tout. Je dis, aucune pensée ne peut saisir. Ne donnez pas des définitions à Dieu comme Chas v'Shalom, un vent, une force, un barbu, quelqu'un. Tu es en train de le rendre nain. Okay. En plus, si c'est un nain bleu, ça devient un issoir. Donc, ça efface tout le Keter. Ou Bazor Akadosh, Parasha Bereshit, Ve'al Da Bereshit, Bet Reshit. Et c'est pourquoi Bereshit, ça commence par un B. Donc, nous sommes dans un monde de pluralité. Premier degré pour toi, c'est le 2. Tu ne peux pas faire autre chose. David Amelech nous donne un secret dans Tehilim 62. Achat Diber Elohim, Shtaim Zu Shamati. Alors que Dieu parle dans un code qui lui est propre, c'est-à-dire l'unité que je ne comprends pas, que je n'entends pas, Achat Diber Elohim, pour que moi j'entende, Shtaim. Donc il m'a dit, je vais te placer deux oreilles, comme ça, tu ne peux pas entendre d'une seule oreille, c'est interdit. Donc j'ai obligé d'entendre deux sons de cloche pour définir quelque chose. Parce que je risque de décider des décisions qui sont néfastes, pourrir la vie de quelqu'un, parce que je n'ai pas entendu deux sons de cloche. Même dans l'étude, tant que tu n'as pas entendu deux versions, tu ne peux pas fixer la halakha. Et c'est pour ça que c'est un sport national dans la Agad, dans la Mishnah, dans la Gemara, de contredire, pas pour faire Zahma, parce que moi je vois de cette manière, toi tu vois de cette manière, je suis obligé de prendre les deux. C'est-à-dire donc Bet Reshit. Donc tout est dans notre corps en deux, toujours.
Mais on ne prend pas les deux dans la décision, on en prend un des deux.
On prend un des deux, ça dépend pour qui. Pour le moment voulu ou pour la personne voulue. Si madame vient me voir pour la même question, mais la même identique que toi, la même, je ne donnerai pas la même réponse. Parce que c'est une femme et toi, tu es un homme. Parce qu'elle, elle a tel et tel truc et que c'est tel et tel machin et toi, ce n'est pas du tout. Donc le Shulchan Aruch, on ne donne une halakha du Shulchan Aruch, c'est interdit. Shulchan Aruch, c'est une base, mais la halakha, c'est en réalité un autre degré. C'est l'intelligence du Rav. Jamais tu viendras chez un Rav sérieux et tu lui demandes, est-ce qu'on a le droit de manger Yom HaKippouri? Mais tu diras non. Non. Il va te dire toujours, ça dépend. Ça, c'est un vrai Rav. T'es malade? T'as un problème? C'est une mitzvah pour toi de manger. Ah bon? Ouais. Il y a quelqu'un qui est venu me voir il y a quelques années, tu le connais, vous le connaissez, et qui m'a dit, voilà, je ne peux pas, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'entendre de la musique pendant la période où on nous interdit d'entendre la musique. Je lui ai dit, toi, c'est une mitzvah pour toi d'entendre la musique. Pourquoi? C'est un dépressif. C'est le mec, il est capable de se tirer une balle dans la tête. Mais à un niveau que tu ne comprends même pas. Pour lui, c'est une mitzvah. C'est vrai?
Il y a un rav ici à Kippour, le jour de l'office de Kippour le soir. Il a fait un rite comme ça. Il a sorti un verre d'eau. Il a bu devant l'assemblée. Il a dit, je suis malade. Je préfère boire et que tout le monde me voit boire plutôt qu'on me voit boire et qu'on se dise celui-là. Et...
Exactement.
Il a fait deux comme ça à la synagogue.
Exactement. Exactement. Ça, c'est une mitzvah. Et d'ailleurs, il y a des périodes dans l'histoire juive où on a fait un festin. Yom HaKippouri. Marqué hein, dans nos livres. Hein. Pas en latin. L'autre l'a dit, c'est marqué dans nos livres. En hébreu. Hein. Quand est-ce que c'était? À l'inauguration du premier temple par Shlomo HaMelech. Au moment où il a inauguré le temple, il a dit à tout le monde, c'est la fête, Yom HaKippourim, on ne jeûne pas. Et ils ont mangé, ils ont fait une simcha et tout. Personne ne lui reproche. Hein. Vous comprenez qu'il y a... Vous comprenez qu'il y a des changements dans l'histoire. Il faut être très souple et savoir que le judaïsme, ce n'est pas des barres de fer. pour tuer la personne. La première définition de la Torah, c'est « Vachai bahem » « Velo sheyamut bahem » Si la Torah te fait mourir, que ce soit au niveau psychique, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau de ton être, ce n'est pas de la Torah. Voilà, là, je suis invité à un mariage, je n'y vais pas. Parce que la mère est en souffrance, parce qu'on lui a dit au fils ni de s'approcher de sa mère, ni de l'embrasser, ni de rien du tout. Où tu as vu une halakha pareille? Où tu es né? D'où tu sors, toi? Alors, ils ont fait un mariage au deuxième étage pour tous les mecs, et un mariage au troisième étage pour toutes les femmes. Et le mec ni voit sa mère, ni rien du tout. Hein. C'est pas que de temps en temps, la kala, elle va rentrer chez les autres hommes.
Il y a du quatrième
étage. Ok. Tu as compris? Ça, ça n'existe pas. Ça, c'est pas de chez nous. C'est pas du judaïsme.
C'est deux orchestres.
mais vraiment, comme ça. Hein. Alors, j'ai dit, excusez-moi, je ne peux pas venir à ce mariage. Je ne peux pas.
Tu dis que tu as un empêchement ou tu expliques?
Non, j'explique pourquoi. J'explique pourquoi. J'ai dit à la mère, je suis désolé pour vous, parce qu'elle m'a appelé pour pleurer. Je lui ai dit, je pleure pour toi, madame.
Il y a des enfants, ils n'embrassent pas leur mère.
Mais oui. Mais oui. Mais oui. Où tu as vu une halakha pareille? Où tu as vu une halakha pareille qu'un père n'embrasse pas sa fille, qu'une mère n'embrasse pas son père? Où? Dans quel film?
Et donc, c'est très grave, ça porte atteinte au respect des parents.
Mais
c'est,
oui, mais
c'est
oui.
Fondamentaux.
Eh bien, voilà. Begin de i tiniana le chushbana. Et donc, tout ce qu'on est dans le cheshbon chez nous, ça commence par deux. Donc, cheshbon égale deux, direct. Veikre reshit. Alors, pourquoi on l'appelle reshit? Puisque la chokhma, c'est déjà la deuxième sphère. Pourquoi on l'appelle reshit? Mais pour nous, c'est le reshit. Le deux, pour nous, c'est le début. Comme la page 2 à la Gemara, c'est le début de la Gemara. Begin de hay kitra ilat mira. Et parce que le keter au-dessus est un degré caché. Tamir en hébreu veut dire caché. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Tamir, c'est quelqu'un de secret. On peut savoir aussi la qualité d'une personne selon son nom. Par exemple, Michel, c'est ma belle. C'est des mots qui vont très bien ensemble et c'est tout.
Ne rougis pas, Michel.
Donc, hi kadma. Donc, le keter, c'est le début, c'est le kodem. De temps en temps, il faut lâcher une petite rigolade pour, parce que vous êtes trop sérieux. Ve'al dela ail bechushbana. Et donc, finalement, le keter n'est pas pris en compte. Tu ne peux pas compter le keter. Maintenant, attention, attachez vos ceintures. Je reprends les sphirotes. Vous vous rappelez l'arbre des sphirotes? Quelqu'un là, par hasard? Oui. Par hasard?
Oui.
Merci.
Les bons élèves?
Elle note tout. Non, c'est même pas ça, elle note tout.
Ils étaient en retard.
C'est pas des très bons élèves, ils étaient en retard. Tu as vu comment ils essayent de te... Alors, regardez. On commence, nous, on est dans ce monde d'en bas. On est d'accord? La première sphère que nous rencontrons, c'est la Malchoute. Et après, on monte au Yesod. Et après, on monte au Hod. Après, on monte au Netzach. Après, on monte à la Tiferet. Après, on monte à la Gvura. Après, on monte au Chesed. Et après, on monte à la Bina. On est d'accord? Du bas vers le haut, la Bina, c'est la combien? Huitième. On est d'accord. Est-ce que le chiffre 8 est comptabilisé?
Non.
Non. Il y a fait. On l'efface. Ça veut dire que dans la Torah, à chaque fois qu'on va te dire de compter, on va te dire de compter combien? 7 ou 7 fois 7. C'est tout. Même si on te dit, par exemple, dans le Homer, tu compteras 50 jours, le verset, il te dit « Usfartem lachem chamishim yom » Toi, de facto, combien tu comptes?
49.
L'ajab.
Et Hanouka?
Hein? C'est pour ça qu'on ne compte pas. Hanouka, c'est une fête qui est au-delà de la nature.
Et pourtant, c'est le keter qui est caché, c'est pas la vina.
C'est la même chose. C'est pour ça, c'est à ça que je voulais en venir, pour bien vous montrer ça. La Bina, ça devient le Keter de qui? De toutes les sphirotes d'en bas. OK? Donc, en réalité, il y a plusieurs Ktarim. Pour moi, mon Rav, c'est mon Keter, ce qu'il est au-dessus de moi. Je ne vais pas aller chercher un Keter qui est à trois sphirotes plus loin. C'est sûr que c'est un Keter, mais ça me dépasse complètement.
Parce que là, chaque sphira est le Keter.
Exactement. Mais la sphira collective de toutes les sphirotes, qui est la racine, la matrice de toutes les sept sphirotes d'en bas, c'est la Bina. Donc, comment est-ce qu'on l'appelle? Em Habanim. La maman de tous les enfants, c'est Mecha. Elle est heureuse. Donc, combien d'enfants a la Bina? Six garçons et une fille. D'accord?
C'est qui la fille?
La Malchoute.
La Malchoute, la Malchoute.
Donc, elle a six garçons. C'est le monde masculin, le Vav, et la Malchoute. Donc, Em Habanim, c'est Mecha. Vous avez compris ça? Donc, finalement, à chaque fois que je veux compter, je dois savoir jusqu'à où, parce qu'à partir d'un certain étage, il n'y a plus de compte. Tu as dépassé ce qu'on appelle les chiffres. Donc, tu n'es plus dans la comptabilité des choses. Et il ne faut pas compter. C'est vrai? Et d'ailleurs, quand tu comptes quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu le limites. Donc, les Chachamim nous disent, ne compte jamais précisément l'argent que tu as. Jamais. Ne compte jamais l'argent que tu as. À peu près. Tu ne sais pas. Si tu comptes précisément, tu vas limiter, tu vas empêcher à Kadosh Baruch Hu de faire un truc là-bas, un très loin que tu ne comprends pas, que le lendemain il t'y a rajouté et tu ne sais même pas d'où. Parce que toi, tu as limité avec ta pensée cartésienne, c'est fini, c'est bloqué. Et c'est pourquoi il y a marqué En Bracha Shruya Beminyan. Pour ça qu'on n'a pas le droit de compter les gens. 1, 2, 3, Chas V'Shalom. On n'a pas le droit de faire ça.
On le fait quand même.
Non. Ou bien on fait, on cite un verset. Va'ani Berov Chasdecha Avo Betecha Eshtachave El Hechal Kotchecha Beiratecha. C'est bon, on est minyan. Mais je n'ai pas le droit de dire 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien je compte les kippotes, ou bien les perruques.
Les chaussures, tu divises par deux.
Exactement. Voilà. Tu vois les complications? Voilà. Asa Elohim et Adam Yachar, Dehema Bikshu Cheshbono. Dieu, il nous a fait droit, et ils sont venus les hommes, ils ont commencé à faire des calculs. Après, il me dit qu'il n'a pas une dent contre moi.
Alors, attends, si la Bina.
Espèce de dentiste, toi.
Donc, nous, on est censé, et pas les hommes, c'est la Chokhma, donc on a un seul critère.
Non, non. Ah. Tous ensemble, nous avons un Keter, c'est maman. C'est Bina. Bina, c'est notre Keter.
Et comment on arrive à la Chokhma alors?
Ben, la Chokhma, c'est ce qu'il y a dans la Bina. La Bina, elle ne vit pas seule. À l'intérieur d'elle, cachée, se trouve la Chokhma. Dans la Kabbalah, on dit que papa et maman ne s'arrêtent jamais d'être ensemble. L'omit parshin ve l'omit parbi. Comme ça, c'est dit dans le Zohar. Donc, quand toi, tu regardes maman, tu as vu qui? Maman et papa, c'est pareil. Sous la forme de maman. OK. Donc, ta couronne à toi, c'est maman. Maman, c'est ma couronne. OK? Alors, on continue. Ubaruru kitziur abayit ha-shalem ha-mitztayer be-bina. Donc, quand tu prends en compte maintenant la bina, voilà, on y arrive. Mikol tzad upone et shlave otzaato lapoal el yedei koach ha-ma'ase. Yakif. Qu'est-ce que c'est Yakif? Il contourne, il entourne, il enveloppe tout. Il embrasse tout. Donc la bina, c'est un monde qui embrasse Zeiranpin et Malchut, les deux degrés d'en bas. OK? Donc, à chaque fois que tu parles de Bina, c'est déjà un Or Makif. Qu'est-ce que c'est un Or Makif? Qu'est-ce que ça veut dire qui entoure?
On est inclus dedans.
Non.
Bon, je connais que la Mekif.
La Mekif, ouais. Mais c'est fait exprès. Il protège, d'accord. Mais pourquoi on l'appelle Makif? C'est un peu ce qu'il a dit. Il y a en plus dedans.
On joue à pyramide.
C'est parce qu'il est, parce que cette lumière nous dépasse. Makif, c'est dans le sens me dépasser. Dépasse ma conscience. C'est un autre domaine. C'est une autre histoire. C'est un autre degré. Donc, c'est Makif et Da'ati. Ça dépasse mon entendement. Donc, chaque fois que tu parles du Olam de Bina, c'est quel Olam? Comment on l'appelle communément, nous tous, maintenant? Olam Ha-Ba. Olam Ha-Ba. Donc, quand tu dis Olam Ha-Ba, ce n'est pas le monde qui vient après la mort. C'est ce degré de Bina. Il s'appelle Olam Ha-Ba. Il est au présent? Oui, donc Ha-Ba, c'est au présent. C'est qu'il n'y a qu'en français que c'est au futur. Le monde futur. En hébreu, c'est Olam Sheba. Le Olam Sheyavo. Olam Ha-Ba. Maintenant. Alors, pourquoi tu ne le vois pas? Parce que justement, il te dépasse. Mais si tu arrivais à trouver une échelle qui fait le lien entre le Olam Hazé et ce degré qui s'appelle Olam Ha-Ba, mais sans arrêt, tu fais des voyages d'aller-retour. C'est la fameuse échelle de Yaakov qui relie ce degré au degré d'en bas. C'est tout. Et chez Yaakov, les anges montent et descendent, c'est-à-dire les informations fusent.
La Baba, c'est aussi les temps de Machiar.
C'est la même chose.
Machiar,
c'est le dévoilement de la Bina sur Terre. C'est tout. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit Yemota Machiar, Olam Abba, c'est la même chose. Shabbat, tu chantes Mais En Olam Abba, un semblant du monde qui vient, pas du monde futur. Parce que Shabbat, tu touches un peu, tu goûtes un peu à ce Olam Abba. Mais il te dépasse complètement. La première preuve, la preuve qu'il te dépasse, le Shabbat, c'est que tu n'as rien fait pour le définir. Ce n'est pas toi. Il te tombe dessus toutes les semaines au même moment. Ce n'est pas toi qui sanctifie. Ça ne dépend pas de Rosh Chodesh. Ça ne dépend de rien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable en tant qu'homme de définir ce temps. C'est un temps qui n'en est pas. C'est très bizarre.
Et pourquoi la Bina est plus perceptible le Shabbat que...
Parce que justement, Shabbat, c'est, si tu veux, le monde tout entier arrive à monter à ce degré-là. C'est comme si on était invité chez lui.
Ça veut dire que c'est nous qui faisons quelque chose.
Exactement.
Lui, c'est tout le temps pareil. En fait.
C'est tout le temps pareil chez lui, mais nous, le monde, il a une élévation le Shabbat.
Parce qu'on a fait quelque chose.
Non. Parce que... Naturellement, parce qu'il a décidé comme ça. Ah. Je rappelle Kvi'a Vekaima. C'est une existence qui est kavua et qui existe et qui ne dépend de rien du tout. Que tu fasses ce que tu veux, que tu montes, tu descends, ça ne change pas le jour du Shabbat. Alors que tous les autres temps, c'est moi qui les fixe. Parce que si j'ai décidé que Rosh Chodesh c'est Shabbat, eh bien Pessah, ce serait Shabbat dans 2 semaines. On est d'accord? Mais si j'avais décidé que Rosh Chodesh c'est jeudi, eh bien Pessah serait tombé un jeudi. J'ai le droit de faire exprès de ça m'arrange pas de Shabbat soit Rosh Chodesh, j'ai pas envie que Pessah ça tombe truc, ça me dérange. Le Beit Din il dit viens on est d'accord tous que Rosh Chodesh c'est jeudi comme ça Pessah c'est jeudi cette année. Ils ont le droit de faire ça ou pas?
Oui.
Oui. Incroyable. Et quand est-ce qu'on a reçu ce cadeau de pouvoir faire ça? Shabbat qui va venir. Comment on appelle le Shabbat qui vient? Non, ce n'est pas encore Shabbat Agadol. Shabbat qui vient, demain. Qu'est-ce qu'on sort? On sort un deuxième Sefer Torah, un troisième Sefer Torah. Demain, on sort 3 Sefer Torah. Shabbat. Comment il s'appelle ce Shabbat? Shabbat HaChodesh. On va lire HaChodesh HaZeh Lachem. Dieu nous a donné cadeau le temps. Donc, je peux sanctifier le temps. Extraordinaire. Donc, si je peux sanctifier le temps, Dieu il me dit, tu te débrouilles ce que tu veux.
Mais ça veut dire qu'il a mis une empreinte à Shabbat. Au temps de Shabbat, lui, il a mis une empreinte.
Lui. Shabbat. Ouais. Et quand est-ce que tu sanctifies le temps?
Shabbat.
À partir du Shabbat. Donc, Shabbat dernier, on a fixé que Rosh Chodesh tomberait Shabbat. Tu ne peux pas fixer le Rosh Chodesh si ce n'est pas Shabbat. Pourquoi? Parce que tu es obligé de partir d'un degré qui ne t'appartient pas. C'est Dieu qui a sanctifié le Shabbat. Le Shabbat qui m'a sanctifié à moi, et moi je sanctifie tous les temps. C'est ce qu'on dit. Mekadesh à Shabbat, Israël, Vazmanim. Non. Oui. Exactement. C'est à partir du Shabbat que tu peux sanctifier le temps. Vous voyez comment c'est réglé? Si vous, un jour, vous êtes posé la question, c'est quoi cette fille-là, Mekadesh à Shabbat, Israël, Vazmanim? Mekadesh HaShabbat, qui est Mekadesh Israël, qui est Mekadesh Tazman. Très important de comprendre ça. D'accord? Maintenant, le kidouche du Zman est obligatoirement que d'une seule terre, la terre d'Israël. Imaginez-vous, Chas Vechalila, qu'il ne reste plus aucune famille en terre d'Israël juive, on ne peut plus fixer aucun temps. Il n'y a plus aucune fête. Il n'y a que le Shabbat. On ne fête plus rien. Si aujourd'hui encore on a des fêtes, c'est que depuis la nuit des temps, en Eretz Israël, il y avait ne serait-ce qu'une famille qui, elle, gère le temps et le sanctifie. Inalacha. Mikol Tsadupina.
Ça veut dire qu'à la fin des temps, il ne reste pas des juifs en Israël.
Exactement. Il y aura aussi des juifs. Voilà. À part les Français. Donc, Mikol Tsadupina, et Shlave Otsaato la poal al yede kochotamase. Ki lo yifala adam shum peula, ela kefi achlatat hamachshava shehi hi tochnit habayit bet hashchina habina. Donc, l'homme ne peut pas faire aucune action dans ce monde si son action n'est pas gravée dans la Bina, c'est-à-dire dans le Keter. Pour lui, c'est le Keter. Dans ce monde qu'on appelle Olam Haba. C'est-à-dire, à chaque fois que j'écris maintenant, je fais ce trait a déjà eu lieu dans un monde intérieur de mon être. Et aujourd'hui, je ne fais que répliquer ce qui a déjà été fait là-bas. C'est instantané, hein, parce que là-bas, il n'y a pas de temps. Mais ça peut être aussi le lendemain. Par exemple, demain, je vais à la plage. Les endroits où je vais poser mes pieds sur le sable, ce sont déjà des empreintes qui existent dans ma pensée qui ont été déjà faites la veille. Et je ne ferai que marcher sur ce qui a déjà été fixé. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a, en fait, une vision déjà de l'ensemble des choses avant que ça ne s'applique ici-bas. Exactement.
Le début et la fin, ça dure un
clin
d'œil, en fait.
Exactement. C'est une pensée, une action.
Il n'y a pas de causalité, tout est mélangé.
C'est vrai. Alors, c'est une cause et effet, cause et effet, cause et effet. D'accord ? Et plus nous sommes proches de Dieu, cause et effet sont instantanés. Plus on est loin de Dieu, plus la cause, c'est 10 ans avant et le résultat, 10 ans après. Donc aujourd'hui, étant donné que nous nous rapprochons de la fin des temps, Pshuto Kemashmao, c'est la fin du temps. Donc finalement, les causes et les effets, leur distance est très proche. Donc tu fais quelque chose hier, tu as le résultat demain, et même plus proche encore, 10 minutes après. Incroyable.
Ça sera jamais superposé à 100%.
Ça sera superposé à 100%. Chez Akadosh Baruch Hu, le temps n'existe pas.
Non, mais pour nous,
pardon. Eh bien, pour nous, c'était instantané, puisque au début des temps, où on était encore très proche de Dieu, vous vous rappelez de cette Gemara, Adam et Chava sont montés 2 sur leur lit, et ils sont redescendus 7. Ils étaient tous les deux. Et immédiatement, elle était enceinte, et immédiatement, elle a accouché de Caïn et de Hevel. Caïn avec une jumelle, Hevel avec 2 jumelles. Donc, ça fait déjà 5, plus Adam et Ève, 7. Donc, ils sont montés ceux, ils sont descendus 7, comme ça dit la Gemara. Pour bien te préciser que quoi ? Qu'il n'y avait pas de temps tel que tu le connais aujourd'hui. C'était instantané. Et arrivera un temps, prophétie, je vous la cite, Venigash Choresh Bakotser. Celui qui labourera la terre cognera celui qui est en train déjà de ramasser l'abondance.
Je pense que les modèles de création de l'univers, c'est comme ça, c'est aussi un cône. En fait,
exactement, c'est un cône. Exactement.
C'est un cône, et là, quand on se rapproche.
Exactement, c'est une pyramide. C'est une pyramide. Au départ, nous étions au point de la pyramide, et plus le temps est descendu, vous vous rappelez, c'est le 2. C'est donc 1 et 2, donc il y a deux falaises. C'est le 2 en question duquel on parle depuis tout à l'heure. Plus tu descends à la base de la pyramide, c'est la plus grande distance entre A et B. Et là, on est en train de remonter, en fait, vers la pointe, vers l'unité divine. Donc, ça se rétrécit. Donc, le temps se rétrécit. Donc, vous n'avez plus le temps. Exactement. Donc, le temps est en train de courir très vite. Donc, tu dois partir à Tel Aviv tout de suite. Alors, je vais essayer de vous expliquer cette notion de Olam Abba, que les gens ne comprennent pas. Tel Aviv, pour toi, maintenant, c'est Olam Hazeh ou Olam Haba?
C'est Olam Hazeh,
Olam Haba. C'est Olam Haba. Chas v'chalila. C'est Ira Kodesh. Alors, c'est le Olam Haba, pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'avoir tout de suite. Tu es obligé de faire un certain travail pour arriver à atteindre. Mais est-ce qu'elle existe dans le présent? Oui. Mais toi, tu ne peux pas l'avoir tout à fait parce que tu dois avoir une demi-heure de route. Si tu arrivais à voyager dans le temps immédiatement, dans ta pensée, tu peux le faire. Tu clignes, tu fermes les yeux et tu t'imagines à l'endroit de ton rendez-vous, tu y es.
C'est pour te dire de rester.
Okay. Et attention, ça ne veut pas dire, et regardez ce que je vais vous dire maintenant, hein, attachez vos ceintures, ça ne veut pas dire que le fait d'avoir fermé tes yeux et d'avoir été là-bas n'est pas plus vrai que d'aller physiquement là-bas.
Ça devient complexe.
Ah oui. Ça veut dire que qui te prouve que ton rêve en réalité, ce n'est pas la vraie réalité et que la réalité que tu vis maintenant, c'est un grand cinéma. Posez-vous ce genre de questions. Mon rave, le Rav Zuckerman Zatzal, c'était son grand travail à la fin de sa vie de savoir quel est le secret des rêves par rapport à la réalité.
Il avait inventé le zoom déjà.
Et est-ce que cette feuille telle que je la touche maintenant, c'est la réalité ou bien tous les atomes qui la composent et toutes les molécules qui se baladent à des milliards de kilomètres à la seconde qui sont à l'intérieur? Où est la vraie vérité? Tu comprends?
On ne saura jamais.
Si, on te saura. Pourquoi tu es pessimiste? Arrête, tu ne réussiras pas à me casser. Je suis optimiste.
Non, mais étant donné qu'il y a une barrière, comme on dit à chaque fois, il y a l'infini, il est inaccessible. Mais
non, Michel, c'est pas vrai ce que tu dis. Parce que regarde, par exemple, l'invention de Waze, ça nous a donné une vision de la réalité future. Avant, il part à Tel Aviv, il ne savait pas combien de temps ça allait lui prendre, comment non, il allait arriver, etc.
Mais c'est pareil.
C'est pareil.
Le fameux parapluie de après ça, tu ne peux rien comprendre.
Mais Michel, tu es d'accord qu'à chaque fois, tu as un autre infini. Chaque fois, tu intègres une partie de l'infini, donc il devient une partie de toi, et on te donne un autre. Donc, on repousse les limites, en fait, de tout ça. Ta connaissance d'aujourd'hui, ce n'est pas ta connaissance quand il y avait 10 ans, j'espère.
Pas loin.
Mais il faut le guérir, ce mec. Mais il faut le guérir, ce mec.
T'inquiète pas,
donc, tu comprends que tu as évolué. À 10 ans, quand tu disais quelque chose, tu disais, ouais, c'est la limite de ma... Jamais. Là, on te voit, machin, dans son travail, machin, une secrétaire à côté, ouvre ta bouche, lui, il est là, il vient. Oh, tu es un patron. Tu as évolué. Alors, tu as un autre infini, c'est vrai. Mais par rapport à ce que tu étais hier, les secrets d'hier sont devenus des révélations pour toi aujourd'hui. Mais c'est comme ça dans tout. Par exemple, les secrets de la Torah. Aujourd'hui, ça devient une révélation, alors que pendant 2000 ans, c'est resté des secrets. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Et c'est pour ça que les grands de la Torah, eh ben, ils n'ont pas besoin de prendre la voiture pour aller à Tel Aviv. Ils font Kfitzat Haderech. C'est tout. Et ils se téléportent Ça existe, Rabotai, aujourd'hui, au moment où je vous parle. Seulement, tu ne vas pas savoir qui c'est, parce qu'ils ne vont pas te le dire. Mais tu les vois, tu les rencontres dans la rue. C'est des gens que tu vois, c'est des gens que tu traverses, c'est des gens avec qui tu parles, c'est des amis, c'est des copains, c'est des blagueurs, c'est tout ce que tu veux. Et ils ont cette capacité, mais ils ne te la diront jamais pour ne pas la perdre. C'est d'ailleurs pour ça que les animaux, eux, voient tout. Parce qu'ils se taisent. Toi, dès que tu as vu un petit truc, tu le racontes au monde entier. Donc, on ne te donne pas à voir. Si tu savais te taire, on te dirait beaucoup plus de secrets.
Ouais, on nous dit qu'il faut diffuser. Puis après, regarder.
Il y a fait. C'est pour ça qu'on ne fait que diffuser ce qui est autorisé à diffuser. Exactement. Mais sachez que les gens faisaient kfitsata derrière. Moi, j'ai étudié avec un maître qui était main dans la main avec Baba Salé, à la Vachalo, et qui passait d'un village à un autre village. Et il faisait 10 villages dans la journée. C'était des centaines de kilomètres. Fermait les yeux, il lui donnait la main, et hop, il se retrouvait ailleurs. Et il rentrait directement là où il devait rentrer, il repartait, tac, tac, tac. Le Harizal devait arriver Shabbat, il était vendredi. Shabbat rentrait à 6 heures, il était 5h59, il a dit à ses élèves, on va à Jérusalem. Il était à Tzfat. Ils lui ont répondu, attends, on va demander d'abord à nos femmes. Ils sont revenus, le Harizal leur a dit, c'est trop tard, vous avez raté le Mashiach. Si vous m'aviez écouté, vous m'aviez fait confiance, on aurait été à Yerushalayim et on aurait fait venir la Géoula, le Mashiach nous attendait là-bas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient aller, c'était juste aller demander à la femme.
J'ai plein d'enfants. Sur une femme, le problème.
Ça existe, Rabotai.
Est-ce que c'est anticipé dans sa pensée?
Non.
Je dirais, c'est de voir ce qui va se passer.
Non. C'est de vivre la chose réellement. Tu es vraiment là-bas. Et ici.
Tu es vraiment là-bas.
En même temps. Ça veut dire, les élèves te voient ici, assis. Et d'autres élèves t'appellent. Et te disent, dis-moi, le Rav, il est avec toi? Il dit, oui. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il est à côté de moi, là. Je le vois aux côtés.
C'est les hologrammes, c'est comme Mélenchon.
Mélenchon, il mélange les serviettes et les torchons. Ça s'appelle Mélenchon. Les serviettes et les torchons. Qui l'a fait la Adam Shumpeula et la Kefi Achlata. Donc, la reine Mina Bina Sod Orota Makifim. Donc, toute la Bina, c'est ce qu'on appelle Or Makif. Donc, ça nous entoure. C'est ce qu'on appelle les deux parcelles de Neshama que nous avons en nous, qui sont en dehors de notre corps. D'ailleurs, la plupart de la Neshama est en dehors de notre corps. Vous savez ça. À combien à peu près, vous savez mettre la mesure? En proportion?
80-20.
Deux cinquièmes. Il y a tout déjà. Michel? 1/10. Il y a fait. Le plus proche de tous, c'est 1/10. C'est à peu près, nous dit le Harizal, vous voyez la partie de mon corps qui rentre dans la chaussure? Ma chaussure, c'est le corps. Et tout ça, c'est la Neshama qui est au-dessus. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est même 1/20 qui est dans le corps humain et des degrés que tu ne peux même pas imaginer qui sont au-dessus, qui sont des makifim. Quel est le but dans ta vie? C'est que ces makifim deviennent des pnimim. Que tu intègres ces degrés qui te dépassent complètement, qui ne sont pas en toi, pour atteindre d'autres makifim. On va t'en donner d'autres, ne t'inquiète pas. Et pourquoi de temps en temps je fais un pidyon nefesh à quelqu'un? Quelqu'un que je trouve pas bien. Parce que même ce petit degré qui est dans le corps, il a plus presque. Il est en dehors de lui. Donc il marche à côté de ses pompes. Mamache. Je voulais le dire avant toi, mais c'est bon, je savais que tu l'avais. Je te donne tout le crédit. Et c'est ça le secret du pidyon nefesh. Je rachète en fait le nefesh, qui est la partie la plus basse. Au moins qu'il ait ça, misken. Qu'il est en train de mourir. Parce que si tout sort complètement, il est mort. Et les gens qui sont dans la peur, dans l'angoisse, dans tous ces domaines de panique, de peur-panique, pratiquement toute la Neshama est sortie.
Pourquoi, je n'ai pas compris. Pourquoi tu rachètes le Nefesh?
Parce que le Nefesh, c'est la partie qui rentre le plus bas. C'est la première partie de la Neshama. C'est la partie la plus basse. Oui. Au moins elle, qui soit déjà en bas.
Le Nefesh, il est en bas.
Non, justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Même dans le Nefesh, il y a des degrés. Donc, s'il lui reste le Nefesh du Nefesh, c'est déjà pas mal. Mais il y a le Ruach du Nefesh, la Neshama du Nefesh, tout ça, c'est du Nefesh. Tu comprends? Ça se subdivise. Donc, Alvaï qu'il ait une partie en lui de quelque chose de vivant. Parce que là, c'est un mort vivant. Et tu le vois sur la figure de son visage. On voit sur son visage, tu regardes dans les yeux. Dans les yeux, on te dit combien de Neshama à peu près tu as dans ton corps. Okay, tu as combien? Tu as 20%, 10%. Okay. Donc, tu lui marques sur le truc 10%, 20%, 30%. Ça dépend des remises.
Ouais, mais ce que je ne comprends pas, c'est normalement, lorsque l'âme rentre dans le corps,
okay,
elle devrait avoir un effet sur le corps. Le corps, il devrait être en meilleure santé.
Exactement.
Il devrait être plus vivant.
Exactement.
Mais comment fait-il qu'il y a des grands raves qu'on a connus qui, par définition, devraient avoir plus... à intégrer plus d'âmes et qui ne vivent pas jusqu'à 120 ans, qui n'ont pas une vitalité hors norme.
Parce qu'il y a
des rares qui décèdent à 80 ans.
Pourquoi tu rentres dans la faute du premier homme. Tout ça, c'est inhérent à la faute du premier homme. S'il n'y avait pas la faute du premier homme, c'est des gens qui véhiculent la vie, donc ils sont censés ne pas mourir, même pas 120 ans. Ne pas mourir. C'est pour ça que la mort n'est qu'un passage et que bientôt, elle sera annulée. Mais pour l'instant, elle existe. Elle est là. Donc, on fait avec. Donc, ces gens-là meurent, ce qu'on appelle en hébreu « metu be'etio shel nachash ». Ils sont morts à cause du serpent.
Peu importe l'âge.
Peu importe la génération. C'est même maintenant. Alors que le serpent, il a déjà fait fauter Adam et Chava depuis 5782 ans.
Il y a des Ramchal, il est mort à 40 ans.
C'est terrible. C'est tout simplement parce qu'il est venu dans ce monde pour laisser quelque chose et il doit se préoccuper d'autre chose maintenant. Mais tout ça, c'est une correction de la chose en question, de tout le cheminement.
C'est comme si les 600 000 déchirements sont toujours là, mais juste.
Il y a toujours, exactement, il y a toujours 600 000 Neshamot distribués différemment dans la génération en question. Tu as tout compris. Et ces 600 000 Neshamot, en fait, c'est, on va dire, l'horizontale. Et Akadosh Baruch Hu, qui dévoile sa Shrina dans chaque génération, avec un coup 5 millions de Juifs, un autre coup 15 millions de Juifs, et ainsi de suite. Donc, il y a le vertical. Comment on dit vertical en hébreu? Anochi. Quand tu dis Anochi Hashem Elohecha, qu'en français tu traduis Je suis l'éternel, ton Dieu, avec une voix de je ne sais pas qui, pour faire un peu théâtral. C'est pas ça. Ça veut dire la verticale est en train de descendre dans l'horizontale de ta vie. C'est ça, Anochi. Adonai Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. C'est pas je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. Reçois maintenant la verticale.
Et l'horizontale.
Comment on dit horizontale? C'est très simple. Tu prends ton oreille à l'autre oreille. Me'uzan. Me'ozen le'ozen. Me'uzan Anachi. Hein? Là, tu te rappelles, tu comprends? Mais même Anochi, maintenant, tu vas te rappeler.
C'est l'équilibre, non, mais
c'est la même chose. C'est-à-dire, l'horizon, c'est un équilibre. Dans l'avion, tu es obligé de voir un trait horizontal juste. Sinon, c'est que l'avion penche à droite ou à gauche. D'accord. D'ailleurs, le mot izun veut dire équilibre. Et le centre de l'équilibre, c'est comme par hasard dans l'oreille. Donc, l'hébreu a raison. Il y en a marre de ces juifs. La chen min habina sod orot amakifim. Donc, à chaque fois qu'on va parler de la bina, c'est des lumières qui te dépassent au départ. Ça s'appelle or makif. Comment nous les appelons? Vous avez déjà entendu cette définition. Mochin de Il a fait. Mochin de Gadlout. Qu'est-ce que c'est Mochin de Gadlout? Les cerveaux supérieurs. Chokhma et Bina. Donc à chaque fois que tu entends la notion Mochin de Gadlout, sache que c'est la Chokhma et la Bina qui sont en train de descendre. Tu dis à quelqu'un Ani Begadlout, ça veut dire il est en high, je ne sais pas comment vous dites. Il est au top niveau. Ça, c'est ce qu'on appelle Ani Beorot, Ani Begadlout, Ani Begadlout Amochin. Quelqu'un qui est triste, il est Bekatnout Amochin. Il est dans les Mochin des Katnout. D'ailleurs, il y a une chanson de Shuli Rat, Mochin des Katnout, Mochin des Katnout. À chaque fois qu'il est triste, il pleure, il dit Mochin des Katnout, Mochin des Katnout. Il a pris un passage du Rabbi Nachman de Breslev et il en a fait une chanson. C'est vrai? Pourquoi pas? Donc, sa lumière, elle éclaire, même à distance. Même s'il est une lumière entourante, c'est comme une lampe que tu allumes de loin, mais tu vois son effet. Il y a un faisceau. Mais c'est la même chose. La Bina, elle t'éclaire de loin, elle te fait un faisceau de lumière dans ta vie, dans tes actions. Donc, à chaque fois que tu fais une action, qu'est-ce que tu dois demander à Kadosh Baruch Hu? Exactement. Fais rentrer dans mon action que je suis en train de faire maintenant la lumière de ta bina, de ta chokhma. Quand est-ce que tu dis cette bracha? Atachonen adam daat umlamed le'enosh bina. C'est ça que vous devez penser. Ça veut dire que Laurent maintenant dans Mincha, il va dire Atachonen adam daat. La prochaine fois que je touche une guitare, brbelaziz, ça va être un autre son qui va sortir.
Dans la guitare.
Ok? Pourquoi? Parce que j'ai fait rentrer maintenant un autre degré. C'est plus moi qui joue, c'est plus Yoel qui peint. Je suis en train d'utiliser, parce que je suis un vecteur de la lumière divine. C'est ça que je suis censé faire venir dans ce monde. Alors il faut que je prenne cette force pour faire partager cette lumière à ceux qui n'arriveront jamais à un Beit Midrash, à étudier. Je vais les rencontrer dans une expo. Pourquoi pas? Et là-bas, ils vont recevoir la lumière comme une gifle, alors qu'ils devaient la recevoir dans une étude de Torah. Allez, ça peut passer comme ça. Et ils vont pleurer. Au lieu de pleurer dans l'étude, ils vont pleurer là-bas. Ils vont dire, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas d'où ça vient.
C'est un début.
Okay. Mais c'est ça la force. C'est parce que tu as mis quelque chose qui est au-delà de toi dans la musique. Elle a un supplément d'âme. Comme qui la rend belle. Okay.
Non, Askel, c'est dans la prière, c'est Chokhma. On dit Askel.
Oui. Avant, il faut. Sinon, c'est Laurent, c'est Laurent. Laurent, c'est le fournisseur.
On ne va rien dire. Quand il dit Véchonené, mais tard, Da'abina ve Askel.
Askel, alors, il y en a certains qui disent Askel, il y en a qui disent Veda. D'accord? Ça dépend les livres que tu as. On n'a pas le même imprimeur.
Oui, on
dit en français. Chez Ben David, on dit Da'at. Chez les Marocains. En anglais, c'est Davidson. Eh oui, Ben David, c'est Davidson. Donc le Harley Ben David, il s'appelait. C'est Harley Ben David, c'est un Marocain. Ils ont fait Harley Davidson. Tu veux que je te dise, c'est tous des feuilles. Il y en a marre.
C'est comme Nissan, hein. Au Japon, ça veut dire fils Nissan.
Hier, je leur ai dit que Nissan, c'est l'expression de sortir en réalité des contraintes de la nature. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui une expression, réfléchir en dehors de la boîte, okay, ou bien conduire en dehors de la boîte. L'inhog michutz la kufsa. C'est bizarre, de quelle voiture ils ont fait la pub? Nissan. Donc je leur ai dit Nissan, c'est l'inog michutz la kufsa.
C'est bon ça.
Et il a fumé deux, au moins deux. Litraot, mon frère. Je pense à toi, je t'appelle tout à l'heure. Ok, donc la chemina bina soda orota makifim. Donc nous sommes dans des makifim. ובכל זאת הערתה תחדור תוך תוכם של כוחות המעשה, סוד אות וו. Donc quelle est la lettre qui vient juste après la bina?
Le
vav. Quelle est la lettre de la bina? Le he. Donc effectivement après le he vient le vav et après le vav vient non le he. Yud ke vav ke. D'accord? Donc notre keter c'est le he d'en haut. Nous nous devons être le vav et en bas c'est le hé. Donc nous sommes l'échelle, c'est nous l'échelle entre les deux hé. Il y a des maîtres dans la Gemara qui s'appelaient Ben Hé Hé. Et un autre qui s'appelait Ben Bag Bag. C'est la même chose, puisque Ben Gimel c'est Hé. C'est 2 et 3. D'accord? Ça veut dire qu'il est. Celui qui fait le hé d'en haut et le hé d'en bas, il fait le lien sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tu es un trait d'union. Voilà le la prochaine titre de ta chanson. Je suis un trait d'union.
C'est bien. C'est pas chet, la lettre de la bina, c'est huitième.
Quelle? Mais de quoi elle est formée, la lettre de la bina? Parfait, tu viens de l'entendre.
Oui,
tout à l'heure, on a fait un enregistrement. Ah, on est en train de faire un truc sur les lettres. Avec ta musique, d'ailleurs. On est en train d'enregistrer tout un cours sur les lettres. Où je parle aux lettres, en fait. Je parle à la lettre. Je dis, ma très chère lettre, Ré. Tu sais combien tu es grande, combien tu es belle, tu sais ce que tu représentes. Et je parle. Et il y a un fond musical avec une introduction. Donc, on est en train de faire tout l'alphabet. Voilà, c'est monsieur Metoudi qui est très méthodiquement. On enregistre tout ça.
C'est
Altar. Okay, ouais. Avec... Il a disparu, là, Altar? Ah, ça y est, il a dépassé. Lui, c'est trois quarts d'heure de... Impossible après. Vous, je ne sais pas comment boutonner, mais lui, c'est trois quarts d'heure. Je sais, je connais son truc. Tov, alors on va terminer là. On va juste. Nous sommes donc le Vav. Les mains tanhigotam bederich yeshara. Et tout ça pour se conduire correctement dans ce monde. C'est-à-dire que vous devez être en fait fidèle à cette lumière. C'est elle qui doit être une lumière à votre devant vous. À sa lumière, nous marcherons. C'est d'ailleurs quand on fait la iloula du Rav Kook ou d'un grand Rav, on dit les oroneler. On marchera à sa lumière. Parce qu'il nous a éclairé le chemin. Et donc on marchera à sa lumière. Maintenant que nous avons tout est clair, tout est limpide, je peux moins me tromper, on va dire. Bezrat Hashem, bimera be'amen.
Amen. Amen. Amen.